FC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le tout s'accapare dans nos têtes.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois.
L'After, jusqu'à 23h, François Binet.
Bienvenue à tous dans l'After, très heureux de vous retrouver, c'est l'After de l'été, mais on reste là évidemment toute la semaine, 7 jours sur 7, avec un nouvel horaire quand même, peut-être que vous êtes habitués depuis le début de la semaine, 21h, 23h, on est à la radio sur RMC évidemment, et à la télé sur BFM Sport, si vous voulez nous voir en vrai. Dans 40 minutes, on vous présentera certains Douillet, Tchaleta, Tsar, la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. J'ai réussi à le dire. Des infos sur Balotelli également. Et puis Neymar l'a dit, il reste au PSG. C'est une bonne nouvelle, ça c'est sûr pour la Ligue 1. On verra si le PSG pourra compter sur un nouveau Neymar. Ça sera aux alentours de 22h. Comme tous les soirs, les infos mercato à retenir. Et on parlera notamment de nouvelles destinations pour Johan Gourcuff. Ça sera vers 22h30. Autour de la table de l'After ce soir, Jonathan Macardy, bonsoir.
Salut François, salut Sam.
Ton avis dans un instant, ça sera sur les champions du monde. On en parle. Et puis Samuel Hippois, bonsoir Samuel.
Bonsoir François, bonsoir Jonathan.
Toi tu nous parleras d'un Italien.
Oui, j'ai envie de vous parler de Bonucci.
De Bonucci, alors.
Je me demande.
Pour l'instant, voilà. On ne dit rien, on te laisse te demander, on en parlera dans un instant. L'After est à vous, je vous le rappelle, 3216 pour réagir, le hashtag RMC Live sur Twitter ou même l'appli RMC Direct Studio. Il y a une image du jour. D'abord, celle d'Antoine Griezmann. On va évidemment parler d'Antoine Griezmann qui était l'un des derniers champions du monde à venir dans sa ville natale, à Mâcon. Il a été fêté par plus de 5000 fans qui sont venus l'applaudir. Il s'est présenté en famille au balcon de l'hôtel de ville. C'était plutôt une très très belle ambiance. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter Antoine Griezmann au micro du balcon de l'hôtel de ville de Mâcon.
Je réalise aujourd'hui comme quoi c'est vraiment une joie et une fierté de porter ce maillot qui nous représente tous, qui est la France. Donc voilà, énormément, voilà, merci beaucoup. Et je crois que j'ai oublié un petit truc. Donc si vous me donnez 30 secondes, je reviens.
Alors on vous explique, hein, évidemment, pour ceux qui sont sur BFM Sport, on le voit se déplacer avec sa fille dans les bras. Il va chercher la Coupe du Monde qu'il a amenée spécialement pour les supporters de Mâcon.
Génial.
Et forcément, les gens étaient heureux de voir Antoine Griezmann, l'idole du pays.
Avant le Ballon d'Or.
Bah justement, c'est bien que tu en parles parce que
il l'aurait pas, hein.
C'est un débat.
Je suis d'accord avec toi.
Au sein de la rédaction d'RMC Sport, on vous cache rien dans l'After. Griezmann Ballon d'Or, il y en a qui disent non, pourquoi Griezmann Ballon d'Or alors qu'il a pas réussi sa Coupe du Monde.
Europa League. Taulier des Bleus pendant la Coupe du Monde, dans les matchs, même s'il a eu un rôle moins saillant, moins brillant, il était extrêmement important. Moi, je vois pas pourquoi
il aurait.
Il était décisif en finale.
Pénalty,
mais non, mais même.
Certes,
au premier tour, il était à la rue. Ça se voyait que physiquement, il était à la rue. Il était accaparé par ses rumeurs de est-ce que je reste ou pas l'Atlético. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il a été moins brillant que ce qu'on avait pu voir, mais il a eu un autre rôle, tout simplement. Je l'ai trouvé très utile pour le collectif.
Bah, je te rejoins tout à fait là-dessus, Jonathan. En plus, ceux qui disent qu'il a fait une mauvaise Coupe du Monde, je leur dirais qu'ils ont une mauvaise lecture du football.
Exactement.
Je le répète encore une fois, le football n'est pas simplement à ceux qui marquent des buts. Le football aussi à ceux qui savent faire briller les autres, qui se mettent à la disposition.
Ça c'est la génération YouTube, tu sais, les highlights sur YouTube.
Ah ouais.
On veut voir des trucs spectaculaires et
exactement.
Tout. Mais le match contre l'Uruguay, Griezmann, c'est une masterclass de déplacement entre les lignes, d'aller harceler la première relance uruguayenne. Il a été somptueux, alors que on l'a pas forcément mis en valeur sur ce match-là.
Non, mais moi je suis complètement d'accord. Moi de toute façon, moi Griezmann depuis ses débuts à la Real Sociedad,
le veux Ballon d'Or depuis qu'il est à la Real Sociedad.
Je trouve surtout que moi il m'a rarement déçu. Ou pratiquement jamais.
Alors, est-ce qu'on parle aussi de Varane quand même pour le Ballon d'Or, Raphaël Varane qui a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid.
Je le déplore, mais c'est un défenseur. Voilà.
Non, et en plus, le mérite de Varane, c'est que lui, il n'est pas forcément dans une équipe où il y a que des très très bons joueurs. Varane, il est quand même au Real Madrid. Griezmann, il est quand même dans une équipe. Bon, on va pas dire que c'est une équipe qui est là forcément pour gagner à chaque fois des titres.
Je suis d'accord avec toi.
Par rapport au Real.
La question qu'on peut se poser pour départager un Varane et un Griezmann, c'est quel joueur est le plus important pour son équipe en club?
C'est Griezmann.
C'est Griezmann qui est plus important que Varane a priori au Real.
C'est Griezmann et dans une équipe qui a un sens du collectif extrêmement aigu. et il est un rouage essentiel de ce collectif.
Alors, donc, juste pour finir sur Griezmann, vous trouvez pas qu'il lui manque quand même quelque chose? Peut-être, vous êtes peut-être déçu de ne pas le voir quitter l'Atlético Madrid pour le voir dans un autre club?
Au contraire, c'est magnifique. C'est magnifique.
Moi, je trouve que ça magnifique. Vous trouvez pas que ça a un manque de caractère? Peut-être que ça révèle un manque de caractère
non,
chez Griezmann?
Non, parce qu'il reste dans une équipe qu'il aime beaucoup, avec une mentalité qu'il aime, avec un coach qui l'apprécie, qui correspond, qui l'a fait progresser, qui a fait évoluer son jeu, qui l'a transformé un petit peu en guerrier. Non, moi, je trouve ça bien. J'aime bien les joueurs qui restent longtemps dans leur club comme ça.
Moi, je pense qu'il avait envie de partir, mais il a dû avoir quelque chose qui a coincé quelque part dans le contrat. Peut-être que les promesses, peut-être qu'on lui...
Déjà?
Ah peut-être, ça c'est vous avez si peut-être des choses.
Bah, sa femme qui veut pas quitter l'Espagne, donc ça.
Bah oui, mais l'Espagne, Barcelone, si c'est puisqu'on parlait de Barcelone.
Sa femme bon, qui veut pas quitter Madrid, en gros, c'est ça. Madrid. Ça restera encore plus les possibilités.
D'accord, bah il se rapprochait de la mer, il aurait pas été dépourvu quand même.
Barcelone.
Bien sûr,
Madrid
c'est sympa,
aussi,
c'est une très belle ville.
Non
mais bon, Non, je pense que certainement qu'il avait envie de partir, ça s'est ressenti. Bon, il a peut-être manqué quelque chose dans le contrat qui le satisfaisait pas.
Oui, il est très bien payé par l'Atlético Madrid. Hein. Il a un contrat en or. Hein,
oui, peut-être
avec l'Atlético Madrid.
Peut-être qu'il demandait beaucoup plus que du temps du jeu. Peut-être qu'il demandait une place de titulaire à Barcelone. Peut-être qu'on ne lui promettait pas.
Donc vous, si vous devez voter pour le Ballon d'Or, c'est Griezmann. On est d'accord.
Moi, les yeux fermés.
Moi, je suis assez d'accord avec
les yeux
vous.
Fermés.
Si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours nous joindre à hein, 3216 ou le hashtag RMC Live sur Twitter.
Ah, ils sont nombreux.
Entre Griezmann et Sakai, mais bon,
ouais, Griezmann. Sakai, effectivement. Oui, non, mais j'ai peur que sur Twitter,
ça réagisse.
Juste un dernier mot sur Griezmann. Sachez que le cheval de Griezmann, vous savez qu'il est fan des chevaux. Il a un cheval, Tornibusch, qui a remporté aujourd'hui la course sur l'hippodrome de Vichy. Donc une belle journée pour Griezmann.
Dans la quatrième?
Voilà, je ne sais pas si c'était la quatrième. On va tout de suite parler de l'avis de Jonathan McCartney. Jingle.
Radio, non?
Jingle.
Quitte à résister aux objurgations des esprits chafouins.
Objurgation, nom féminin, vivre montrance en particulier pour détourner quelqu'un de ses projets.
Là, j'ai tout compris.
Voilà, alors il paraît que tu es le seul ici à savoir écrire anticonstitutionnellement parfaitement sans faute. C'est une de tes qualités.
Je pense pas que je sois le seul, non.
C'est peut-être pas ta seule qualité.
Non. Et je suis pas le seul surtout. Attends, ouais. Aucun autre genre.
Anticonstitutionnellement, tu l'appelles comment?
Oh, c'est trop long. Bon, on passe à l'étranger. C'est le plus long genre. Tu veux qu'on le fasse vraiment? C'est pas très radiophonique.
Mais si, c'est tout à fait radiophonique. C'était juste un test.
J'aimerais faire un avis.
Ton avis.
Qui dépasse un petit peu le cadre du football, justement. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs polémiques tout aussi absurdes qu'abjectes qui ont suivi la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Que ce soit la durée de la traversée des Champs-Élysées, la réception élyséenne, des incidents qui ont eu lieu mais qui ont été immédiatement montés en épingle par la fachosphère qui est toujours prompt à faire le caniveau. On n'a pas eu de répit en fait. On n'a pas vraiment pu se concentrer uniquement sur le sportif. Et puis pire encore, il y a eu la naissance de ces débats totalement lunaires autour des origines de nos joueurs. Plus encore, ces débats, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'ils ont pris une ampleur internationale, traversant les océans, comme quoi, la bêtise, elle a pas de frontières, hein. De l'indigent de légèreté de cet humoriste américain, là, avec son humour à deux balles, à l'agressivité puante de certains médias italiens. On a lu des phrases totalement, vraiment, c'était vraiment dégueulasse. Tout le monde semble avoir son mot à dire sur l'équipe de France, de Maduro à Obama. Alors, c'est vrai que, quand on voit cette équipe qui gagne la Coupe du Monde, on a envie de faire de ces bleus, qui sont sympathiques, de faire une sorte de beau symbole républicain. Je suis d'accord avec ça. On a entendu de la part des joueurs des Vive la République, des Marseillaises chanter à pleine gorge sur le perron de l'Elysée. Ça a donné des jolies scènes. Et puis surtout, on a entendu de la maturité dans les discours des joueurs comme Paul Pogba en conférence de presse, comme Adil Rami après la victoire, ou la réponse, le tweet de Benjamin Mendy qui répondait, vous savez, ce tweet avec les drapeaux français en face de chaque nom. Ok. Moi, j'aimerais juste faire un petit flashback 20 ans en arrière, revenir en 98. Après la victoire en 98, qu'est-ce qu'on nous a sorti? Marketing politique, le slogan Black Blanc Beurre, avec comme ambition politique de façade de faire de ces bleus de 98 des acteurs actifs, et je fais exprès de faire ce pléonasme, des acteurs actifs de la lutte contre le racisme et de la promotion du vivre ensemble dans une société multiculturelle qui à l'époque connaissait et avait du mal à trouver son équilibre. On a voulu à ce moment-là faire des joueurs de cette équipe-là, de cette équipe de France-là, des ambassadeurs de la diversité. Mais on s'est vite rendu compte que c'était foutre un pansement sur une jambe de bois. C'était comme à chaque fois qu'on essaie de faire du football un outil pour changer les problèmes de la société, ça fait pchit. Le problème, c'est justement, ça vient de la confusion un petit peu généralisée qu'ont certains penseurs et certains dirigeants politiques lorsqu'ils parlent de football. elles ont tendance, souvent, on a tendance à appréhender le football comme un fait social, c'est-à-dire un fait social, les manières d'être, les manières de faire d'une société. Qu'est-ce que ça donne comme logique? On pense vraiment, donc du coup, que comme le football c'est un fait social, ça peut être un remède aux grands problèmes qu'on a dans notre société. Et ça, c'est une grave erreur. Le football, c'est pas un fait social, c'est simplement un produit culturel. C'est le reflet, c'est le miroir grossissant de notre société. C'est le miroir grossissant des évolutions économiques d'une société. Par exemple, de la mondialisation, de la croissance des revenus dans l'industrie du spectacle. Le football, c'est le miroir grossissant des évolutions technologiques et du progrès technique. On le voit à travers l'utilisation de la VAR, à travers la réalisation des matchs qui est de plus en plus chiadé. Et c'est le miroir grossissant des évolutions sociétales dans son ensemble. Alors, où est-ce que je veux en venir? C'est très simple. Cet esprit républicain et cette fierté d'être français qui a émané de cette équipe, c'est simplement le miroir de notre génération, de la génération de cette équipe de France-là. Qu'est-ce que j'entends par génération? C'est la génération au sens large. C'est la génération qui, coup sur coup, a connu Mohamed Merah, le Bataclan, le Charlie Hebdo, la promenade des Anglais. C'est la génération qui, ces derniers temps, s'est plus réunie pour pleurer, pour être triste, que pour faire la fête. C'est une génération qui, dans la douleur et la tristesse, a sublimé le sentiment d'appartenance à la nation. C'est une génération qui, dans la souffrance, s'est donnée pour repère de se rassembler autour des symboles républicains et autour de cet idéal de modèle républicain d'intégration universaliste qui est le modèle français d'intégration. Et où, peu importe en fait tes origines, tu peux avoir des origines maliennes, guinéennes, marocaines, algériennes, asiatiques, ce que tu veux, on est français avant tout, c'est ça le modèle d'intégration universaliste français. Alors je pense que moi, c'est bleu, plus qu'un symbole, c'est simplement le reflet de ce qui se passe dans la société. Et je pense que oui, ils ont une portée extrêmement symbolique parce que le football, il y a tellement de puissance médiatique autour que forcément, ça a un impact qui est beaucoup plus important. Mais moi, là où je veux en venir, en fait, c'est que être un symbole, c'est déjà bien. À la rigueur, devenir un instrument de storytelling politique, pourquoi pas, c'est une vieille ficelle, on leur pardonnera si le gouvernement actuel utilise l'équipe de France pour faire ça. Mais j'aimerais qu'on apprenne des erreurs qu'on a commises en 98 et qu'on s'attende pas à ce que Paul Pogba aille, par exemple, résoudre les maux des quartiers et des zones rurales, qu'on s'attende pas à ce que Benjamin Mendy aille résoudre une bonne fois pour toutes les problèmes de racisme qu'il peut avoir encore en France. Et j'aimerais que chacun reste à sa place et que ce soit les décideurs, les dirigeants politiques qui décident et qui mettent pas trop de pression sur les épaules des footballeurs. J'aimerais qu'on laisse nos bleus, ces bleus-là, ces bleus de 2018, être eux-mêmes, à savoir des footballeurs fiers de porter le maillot bleu. Et rien que ça, déjà, après certains propos pas si vieux, je pense encore aux propos de Karim Benzema qui disait il y a pas si longtemps porter le maillot de l'équipe de France par intérêt sportif, mais que lui, son cœur était algérien, rien que ça, que ces bleus soient si fiers de porter le maillot bleu, c'est déjà un progrès et c'est déjà pas mal. Alors qu'on en reste là et qu'on n'en fasse pas trop avec l'équipe de France.
Bon, c'est... c'est Jonathan ou Vincent Placé que j'ai eu là? C'était vraiment un discours.
Oh là là, Vincent. Alors après, je sais pas si t'as eu vent de ces mésaventures récentes, mais je le prends très mal.
Non,
j'habite pas loin du quartier où il s'est fait pincer, à deux rues, donc
Non, mais c'est quand même un discours vachement assez politique là ce qui vient de nous sortir.
Ce qu'il veut dire, et c'est vrai qu'à un moment donné le slogan par exemple Black Blamber, rien que ce slogan là était finalement une mauvaise idée, parce que rien que dans le slogan il y a une division. Déjà tu divises. Alors que les joueurs de l'équipe de France, là, ils ont pas du tout envie qu'on leur renvoie leurs origines. Ils ont pas envie qu'on leur renvoie leur couleur de peau. Ils disent juste qu'ils sont français. Ils ont cette fierté d'être français. C'est quand même une petite différence. C'est-à-dire que là, quand même, on a appris par rapport à 98. J'ai pas entendu ce slogan-là, en tout cas.
Non, mais l'erreur qu'il faudra pas commettre, c'est de croire que le football a un pouvoir pour résoudre les maux de nos sociétés. Et ça, c'est ce qui est sous-jacent quand on lit la presse, quand on entend certains discours. On tombe encore dans ce piège-là.
Non, la seule chose, c'est se dire peut-être que ces jeunes hommes-là, ces footballeurs-là, sont parfois issus de quartiers difficiles, de quartiers défavorisés, et que le football est un moyen d'insertion pour certains.
Non, mais François, moi je crois pas, comme quand tu dis que ça les gêne un peu qu'on les met en plein visage leurs origines, je crois pas. Je crois qu'au contraire, ils les revendiquent. On les voit justement dans leur façon de fêter, cette façon de fêter, de chanter, d'être joyeux dans les vestiaires. Ça, c'est les origines un peu qu'on retrouve un peu en Afrique. Honnêtement, quand j'entends
Blanc-beurre, rien que ça. Oui, ça veut dire que tu divises déjà l'équipe tu forces les gens à se dire.
C'était surtout le slogan politique le plus bidon, tu mangeais des pommes. Hein.
Ouais, bon. Moi, je demande qu'est-ce qui gêne là-dedans. Moi, en tout cas, ça me gêne pas qu'on dit que c'est quelque part c'est l'Afrique qui a gagné. Je vois pas qu'est-ce qui est où il y a.
Ah, ça t'a pas choqué.
Non, mais attendez. Mais pourquoi ça devrait me choquer?
Parce que quelque part. Après, ça dépend qui l'a dit. Mais il y a quand même des gens qui l'ont dit, notamment l'extrême droite en Italie.
Non, mais quelque part, leurs parents viennent carrément quand même d'Afrique. La France a colonisé l'Afrique. Donc moi quelque part ça me gêne pas en tant que ça, parce que je vois pas le mauvais côté de la chose là-dedans. Moi, est-ce que le fait que les gens que ça gêne, est-ce que c'est le fait que ça gêne parce que justement c'est des Africains d'origine ou de qui parce qu'ils ont gagné, c'est peut-être ça aussi qui me fait peur.
Certaines franges de la population, voilà. Bien sûr. Non, moi ce que
parce
je,
que sinon là où je quelque part c'est une vérité.
On va revenir, messieurs, mais on va juste faire un petit détour parce que l'actualité nous attend au meeting de Monaco, c'est de l'athlétisme et François-Xavier de Châteaufort nous attend. François-Xavier, c'est à toi, il y a beaucoup de beau monde ce soir à Monaco.
Ouais. Et le centimètre à l'instant sous nos yeux avec Pascal Martin Lagarde, la lutte avec Choubenkov, le russe, et le russe Choubenkov qui l'a remporté le chrono 13 secondes et 7 centièmes, c'est pas son meilleur chrono de la saison, lui qui était déjà descendu sous les 13 secondes à plusieurs reprises, notamment 12,92, un nouveau record de Russie il y a de cela quelques semaines. Victoire quand même pour Choubenkov qui était favori de cette course en 13,07. Pascal Martin Lagarde qui s'est bien bagarré, qui doit terminer 2 ou 3e, on va attendre la confirmation dans quelques instants. Il y avait Kevin Mayer également dans cette course, le champion du monde de décathlon qui voulait se frotter, eh bien une fois n'est pas coutume, aux meilleurs mondiaux de la discipline, aux meilleurs hurdleurs de la planète. 13,18 pour Orlando Ortega qui termine l'Espagnol en 2e position, et normalement Pascal Martin Lagarde devrait être pas loin derrière. 13,18 pour Ortega, 13,07 pour Choubenkov qui a eu une victoire assez facile, notamment sur la seconde partie de course où il a bien déroulé comme à son habitude. C'est un petit peu long pour avoir la photo finish pour la troisième place alors que les concurrents regardent. Voilà, 13,20 pour Pascal Martin Odegaard qui termine bien évidemment troisième en 13,20. C'est son meilleur chrono de la saison et c'est très encourageant. On le rappelle, les championnats du monde de Berlin, les championnats d'Europe de Berlin approchent à grands pas, c'est début août. Et donc voilà, et bien c'était la dernière course de PML, comme on dit ici à Monaco, avant le rendez-vous berlinois.
Merci FX, merci beaucoup en direct de Monaco, donc pour RMC et BFM Sport. Ouais. On continue de parler de cette équipe de France, l'avis de Jonathan.
À Sam, moi ça me dérange pas qu'on remette en avant les origines de certains joueurs. J'ai pas dit ça du tout, mais ce que je trouve remarquable dans le discours des joueurs, c'est qu'au contraire, ils n'ont pas mis en avant cette origine. Enfin, ils ont mis en avant le fait d'être français avant tout. Et ça, je trouve vraiment que ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le reflet, je pense, d'une évolution qu'on sent depuis, depuis 2 ans.
Ça semble sincère,
mais je pense juste que ça va dans le même courant de ce qui se passe dans notre société, au sens large du terme, depuis 1 an, depuis 2 ans, où c'est vrai qu'on a eu beaucoup de drames, faut appeler un chat un chat, et on a vu, que ça a développé chez les jeunes, on va dire, je sais pas, moi, là, on va le catégoriser de 18 à 35 ans pour faire une frange sociologique. On a vu, que on avait beaucoup moins honte de chanter la Marseillaise, beaucoup moins honte de prendre le drapeau, alors qu'avant, quand tu prenais le drapeau, que chantais la Marseille, on disait que t'étais un facho en France. On a eu beaucoup moins honte de faire tout ça. On s'est vraiment rassemblé autour des valeurs républicaines, autour du pays. Et j'ai l'impression que le sens de mon discours, en fait, c'est que cette équipe de France-là, le discours de ces joueurs-là, c'est le discours d'une génération. C'est pas juste le discours de ces joueurs-là. Ils s'inscrivent totalement dans le mouvement qu'on peut sentir depuis quelques années. Et là où je veux mettre en garde, c'est pas de dire que c'est pas bien. Là où je veux mettre en garde, c'est juste de dire que ça reste des joueurs de foot et que c'est pas des hommes politiques et que c'est pas eux qui changeront la société. C'était juste le sens de mon propos.
Ah oui,
peut être d'accord.
Ah non, je suis complètement d'accord avec ça. En plus,
ça ne réglera pas tous les problèmes, mais ça fait du bien. Voilà, dans ce contexte-là, ça fait
du bien. C'est un beau symbole.
C'est un beau symbole.
Oui.
Et on a besoin de beaux symboles après ces 2 années très difficiles.
Messieurs, qu'on a commencé cet after par Griezmann Ballon d'Or, mais ça fait vraiment réagir sur le hashtag notamment RLC Live. Il y en a beaucoup qui nous disent, vous avez oublié Modric, les amis. Voilà, Modric Ballon d'Or.
Il n'a pas gagné la Coupe du Monde.
Dieu Adrien. Zaza qui nous dit Varane a tout gagné, un défenseur, ça change. Le dernier de Cannavaro en 2006, qui avait gagné la Coupe du Monde avec l'Italie.
Ouais, mais en 2006, je l'aurais donné à qui? C'est ça le truc, tu vois, il y avait moins de concurrence. Oui, c'est vrai aussi.
Alexandre qui nous disait les joueurs défensifs Ballon d'Or, c'est très rare. Alors Varane Ballon d'Or, je n'y crois pas du tout. Au contraire d'un Griezmann qui a plus de chance selon moi. Modric Ballon d'Or encore, Erwan Chapel. Quelqu'un qui nous dit tu connais Modric? C'est peut-être adressé. Oui, je le connais Modric, hein, effectivement, qui a fait une bien meilleure Coupe du Monde que Griezmann, on est d'accord.
Oui,
mais qui n'a pas gagné.
Il n'a pas gagné.
Je pourrais vous dire il a été moins efficace que Griezmann aussi, hein. Griezmann a quand même marqué des buts. Après on pourra toujours dire que c'est des pénaltys, mais les pénaltys, il faut les mettre, à l'image de un Messi qui en a raté un. Donc l'efficacité au football, que ce soit pénalty ou pas,
Est-ce que ça a encore de l'importance pour vous, le Ballon d'Or? Quand même peut-être rappeler la règle, parce que ça a changé et aujourd'hui on va peut-être plus mettre en valeur le palmarès, qui n'était plus le cas ces dernières saisons, puisqu'il n'y a plus le vote des sélectionneurs et des capitaines de sélection.
Oui, et puis surtout, il y a
qui votaient un peu pour leurs potes.
Il y a l'instant T qui joue beaucoup. C'est la culture de l'instantané. Si Griezmann foire son début de saison, il est out.
Oui. C'est vrai. Alors on va justement le ballon d'or au 32-16.
Le ballon d'or a souvent été donné aux joueurs qui étaient les plus, on va dire, dans la communication, qui étaient beaucoup plus par rapport à une certaine...
Ah, ça fait partie peut-être du jeu. Voilà. Mehdi au 32-16 nous attend justement sur ce débat du ballon d'or. Salut Mehdi.
Salut, ça va? Salut.
Merci, ben, ça va très bien, t'es en vacances?
Non, je travaille. J'y vais en septembre.
Bon, alors merci de nous écouter. Sur le ballon d'or, toi tu votes qui?
Moi, pour le Ballon d'Or, j'ai l'impression que cette année, il y aura un changement, parce que je pense que ce sera soit pas CR7 ni Messi, même si je pense que CR7 le mérite, parce qu'il a fait une saison en club magnifique. Mais si on mise sur la Coupe du Monde,
il
donnerait à Varane ou à Mbappé. Parce que je pense que le système de Deschamps, il repose pas mal sur Varane ou Pichy, sur côté défensif, et notamment sur Mbappé du côté offensif. Parce que dès qu'on récupérait le ballon, on a remarqué qu'on cherchait immédiatement Mbappé pour faire remonter le bloc et pour créer des actions offensives et du coup des actions dangereuses. Donc moi je le passerais, je pense que Mbappé est beaucoup plus important en équipe de France sur cette Coupe du Monde que Griezmann. Même si Griezmann, je pense qu'il a marqué plus de buts qu'Mbappé.
Bah Mehdi, Mbappé a fait une très belle Coupe du Monde, il a été exceptionnel. Il a vraiment, on a vu que c'était un joueur qui allait devenir un très grand joueur, qui certainement allait le gagner le Ballon d'Or, vu que c'est le sujet du débat de l'instant. Mais oui, très franchement, je pense pas que Mbappé ait été beaucoup plus important que Antoine Griezmann lors de cette Coupe du Monde. Encore une fois, je pense que son rôle a été un peu plus obscur, un petit peu moins visible, un petit peu moins saillant, mais je pense que vraiment, alors ok, mis à part le premier tour, il a fait des très très gros matchs, en se fondant dans le collectif, en allant au turbin, en sacrifiant pour ses coéquipiers. Et même si, il a moins de highlights que Mbappé, je pense qu'il est tout aussi important qu'Mbappé. Et en plus, il a gagné une Coupe d'Europe.
Est-ce qu'il sera forcément française, Ballon d'Or, d'ailleurs?
Moi, je pense qu'il sera français, comme c'est une année de Coupe du Monde, c'est toujours un peu particulier. Même si, je répète,
rappelle-toi, hormis Schneider.
Schneider, Ribéry aussi.
Non, mais alors justement, Schneider était victime du changement de système de vote de Ballon d'Or. Et si ça avait été que les journalistes, il aurait été Ballon d'Or en 2010.
Oui, c'est vrai, mais là, c'est parce que Messi, quand même, je pense qu'il est pas dans la course.
Ça serait une grosse
surprise. Ligue des Champions, Coupe du Monde foirée, non.
Oui, mais en fait, juste pour revenir au
débat, quand même, qui a fait une énorme saison avec le Real Madrid et qui a porté le Portugal, même s'il a raté un petit peu.
Le truc, c'est que là, ça va être très dur parce que dans les vainqueurs de la Coupe du Monde, il y a aussi le vainqueur de la Coupe d'Europe. Alors bon, c'est déjà arrivé, hein, y a pas de souci. Mais t'as des joueurs qui ont gagné et la Coupe d'Europe, Europa League et Ligue des Champions, et la Coupe du Monde. Donc, je vois pas comment ça peut échapper à un Français cette année.
Oui, mais franchement, je m'attends à m'accorder sans manquer de respect parce que je sais que t'es supporter de Marseille, mais l'Europa League. Si Marseille sont arrivés en finale, ça montre bien le niveau de cette Coupe d'Europe.
Tu sais mon pote, je vais te dire un truc. Je te souhaite de connaître le bonheur d'être toujours en course en Coupe d'Europe au printemps. J'espère que ça t'arrivera.
Oh, la saison vient de commencer, que ça y est, c'est parti.
Je te le souhaite.
On va passer à Benita qui nous attend.
Ok, juste, je veux te poser une question, Jonathan. Si Mbappé ne serait pas là pendant la Coupe du Monde avec l'équipe de France, comment on aurait fait, comment on jouait bloc bas, comment on aurait fait pour remonter le bloc?
Je suis d'accord avec toi, il a été indispensable. C'est pas le sens de mon point, je t'ai dit, il a été indispensable.
C'est le facteur
X. Tout autant que Varane, tout autant que Griezmann. Je pense que dans cette équipe-là, c'est très difficile, justement. Je pense que ressortir une individualité, ça serait une erreur, parce que c'était avant tout un collectif. C'était un très beau collectif. Donc ressortir un joueur, effectivement, Mbappé, il est visible parce que c'est une flèche, tu le vois, il est technique, il est très télégénique même, j'oserais dire, il est très bon aussi,
c'est un génie, certainement un des futurs
meilleurs joueurs au monde,
des joueurs comme ça, il y en a pas tous les 10 ans, ouais.
Mais je pense que l'importance de Griezmann, même si elle a été moins visible à la télévision, elle est peut-être moins c'est moins spectacle, c'est tout aussi important qu'Mbappé.
Alors merci Mehdi. Merci.
Je peux juste dire un dernier mot.
Très rapidement.
Je pense deux choses. La première chose, c'est que si Griezmann est Ballon d'Or, ce sera un des Ballons d'Or les plus faibles que j'ai jamais connus. Et deuxièmement, je pense qu'on peut être français et africain, et ce sera mon dernier mot.
Tu as raison. Merci Mehdi. Bonne soirée, à bientôt.
Mehdi, je le trouve quand même un peu dur. Si Griezmann est l'un des Ballons d'Or les plus faibles...
Parce qu'il a peut-être connu que Messi, Ronaldo.
je veux dire, c'était qui le
dernier ballon d'or le plus faible pour toi?
Bah on a cité Cannavaro, on a cité
Cannavaro, c'est Cannavaro. Il le méritait quand même en 2006.
Voilà,
hein.
Mais même s'il le méritait, j'emploierais même pas le terme qu'a employé Mehdi. Pour moi, tous les ballons d'or qui ont reçu, il le méritait. Je veux dire, c'est quand même des sportifs, des footballeurs de très très haut niveau. Je veux dire, dire que c'était que ce sont des joueurs faibles,
c'est dur. J'ai du mal à me rappeler. Tellement ça a été vampirisé par Ronaldo et Messi, de qui il a eu avant, mis à part Cannavaro.
Caca, c'était le dernier avant Messi et Ronaldo.
Il n'y a pas eu Owen.
Il y a eu Owen,
Nedved, je crois. Ouais. Mm-hmm. Non mais c'est, il est dur, hein. Il est quand même dur.
Alors Griezmann, meilleur français de la finale, c'est ce que nous dit FDcar sur le hashtag RMC Live sur Twitter. Ouais. Il tient bien les coups francs, mais très moyen dans le jeu pendant presque toute la Coupe du Monde, y compris sur des matchs de phase finale. Rate toutes ses déviations contre l'Uruguay, par exemple.
On en attend beaucoup
de Griezmann. On va prendre Benita qui est au 32-16. Benita, bonsoir.
Allô, bonjour. Bonsoir.
Pardon. Salut Benita.
Ça va?
Alors, sur le
débat du Ballon d'Or qui va enflammer toute la fin de l'année, hein, quel est ton alors, vote pour toi?
Moi déjà, j'aimerais vous dire deux choses si vous me permettez.
Je suis supporter
du FC Barcelone, donc ce que je veux dire, c'est très dur pour moi. C'est très très dur pour moi.
D'accord.
Mais le Ballon d'Or, c'est Cristiano.
Ça serait pas volé, hein.
Christ. Pourtant, Messi c'est mon dieu. Hein. Messi c'est mon dieu. Je l'aime plus que tout, même quand tu fais des matchs pourris. Mais là, le ciseau qu'il a mis,
le ciseau.
Tu es obligé de dire la vérité.
Ouais, Benita, mais tu sais, ça serait pas volé. C'est quand même un mec qui a gagné sa troisième Ligue des Champions d'affilée. Ça a jamais été fait. C'est prodigieux. Ouais, ça serait pas volé aussi.
Ouais, et surtout à son âge, faire ce qu'il fait, c'est pas donné à tout le monde. Hein.
Non, bien sûr.
Effectivement, ça serait pas volé. Maintenant, moi, je maintiens que ça serait pas volé non plus pour Antoine Griezmann.
Voilà. Exactement. Ouais. Je pense, de toute manière, il va falloir attendre le début de la saison, parce qu'on sait que ça a quand même une très forte importance. Si Ronaldo, quand il arrive à la Juve, il met des buts par palanquée, bah effectivement, voilà, ça sera le favori.
Moi, je trouve que le Ballon d'Or, ça serait encourageant aussi de le donner à Antoine Griezmann, de montrer à la génération que quand tu travailles, quand tu bosses, quand tu te mets au service de l'équipe, tu mérites aussi. Tu mérites aussi la récompense. C'est pas simplement, je dis pas que Ronaldo et Messi ne travaillent pas, mais on a souvent.
C'est un bourreau de travail. Hein.
Je pense qu'on récompense très peu les porteurs d'eux, les serviteurs.
Ah bah oui, mais c'est une récompense individuelle.
Non mais je pense que c'est un message qu'il faudra envoyer aux jeunes générations, de leur dire que si tu travailles, tu auras aussi la reconnaissance du grand public.
En plus, c'est pas juste un porteur d'ordre, Griezmann, c'est le taulier de l'Atlético, quoi. C'est quand même.
Par contre, par rapport à ce que Mehdi a dit. Je comprends un peu ce qu'il veut dire, dans le sens où il dit que c'est le plus faible, parce que oui, quand t'as Messi et Ronaldo, t'es obligé de voir les autres.
C'est sûr, forcément, c'est pas la même catégorie, sans doute.
Voilà, mais après raison, je dirais pas dire qu'il est faible. Il est juste pas Messi et Ronaldo.
Mais sur cette saison, peut-être que ça sera logique. On verra ça. On aura le temps d'en reparler, hein, je pense, de ce débat. Merci beaucoup d'être passé par RMC et BFM Sport. Dans un instant, l'avis de Samuel sur Leonardo Bonucci. Le défenseur italien est annoncé au PSG. Est-ce que c'est une bonne idée? Vous le saurez en nous écoutant encore sur RMC, sur BFM Sport. L'after continue. À tout de suite.
RMC, le super football show. L'after foot, François Pinet.
Allez, dans 20 minutes, le point sur le mercato de l'Olympique de Marseille dans l'after. Donc, restez bien avec nous. On vous dira où en est d'ailleurs le dossier Mario Balotelli. Ça tarde pour l'instant entre Nice et Marseille. Mais tout de suite, c'est l'avis très attendu de Samuel Ipois. Sam, tu voulais nous parler d'un défenseur italien, Leonardo Bonucci. Alors, juste avant de te donner la parole, je voulais quand même, parce qu'on a des informations aujourd'hui, vous donner cette information sur l'AC Milan qui est autorisé à réintégrer la Ligue Europa. Décision du tribunal arbitral du sport. L'AC Milan qui avait été exclu de compétition européenne par l'UEFA pour ne pas avoir respecté le fair play financier. Et finalement, cette nouvelle va peut-être changer la donne pour Leonardo Bonucci, dont on disait qu'il était très très proche du PSG, puisqu'il a tweeté: on a reconquis ce qu'on avait gagné sur le terrain. Toujours sur la presse sportive italienne, le joueur doit rencontrer le nouveau board du club milanais au cours de ce week-end avant de trancher concernant son avenir. Tu peux y aller, Bonucci au PSG, ça te passionne pas?
Non, j'espère que ça va changer et j'espère que, pourquoi pas, qu'il reste à Milan. Voilà, ouais, effectivement, Thomas Tuchel, vous voulez un élément pour renforcer sa défense. Apparemment, ça devrait être lui ces derniers temps. Bon, je précise quand même, hein, parce qu'on est souvent incompris de nos amis auditeurs. Bonucci est un joueur de très grande classe. Hein, la défense acharnée, quasi infranchissable, qu'il formait il y a récemment à la Juventus avec Andrea Barzagli et Giorgio Chiellini, ouais, et Gianluigi Buffon, était pratiquement l'une des défenses la meilleure d'Europe. La dernière fois que j'ai vu une défense aussi solide et performante était peut-être celle-là de du Milan AC de l'ère Sacchi avec Baresi, Costa Curta et Paolo Maldini et Tassotti. Maintenant, je me demande, est-ce que le Paris Saint-Germain a besoin de lui? Moi, je vous dis non. Honnêtement, non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait de plus que Kimpembe?
L'expérience.
Ouf, l'expérience?
L'expérience.
L'expérience, ouais, de la Ligue des Champions.
Attendez. Alors, des fois...
Bah, tu poses une question,
je réponds. Moi, je pense que non. Parce que des fois, on entend dire, oui, attendez, on ramène un joueur, ça c'est l'excuse. On ramène un joueur pour nous faire croire que lui, il a l'expérience pour faire gagner la Ligue des Champions. Mais Kimpembe, il a l'expérience maintenant pour gagner la Coupe du Monde. Moi, je pense que on a utilisé énormément de superlatifs pour Kylian Mbappé. Mais on peut utiliser les mêmes pour Presnel Kimpembe. C'est un monstre. C'est un joueur extraordinaire. Il est rapide. Il est jamais pris de vitesse. Il a une lecture du jeu et un placement qui est extraordinaire. Je vois pas pourquoi on irait chercher ailleurs. C'est un joueur. Il a 22 ans. Il est parisien. Il adore Paris. Il serait temps de le faire jouer. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire jouer? Pourquoi aller chercher quelqu'un d'autre alors que tu as sur place? Il faut dire aussi une chose, les techniciens Tuchel, quand il signe à Paris Saint-Germain, il est dans l'obligatoire et dans l'obligation et le devoir de faire progresser les jeunes joueurs. Il faut qu'il le fasse progresser, il faut qu'on le fasse jouer. Moi je veux dire, Bonucci c'est très bien, mais il faut pas oublier une chose, Bonucci était très bon avec Barzagli et Chiellini. Dans cette défense à trois, il était vraiment extraordinaire. Mais je crois pas que le Chiellini qu'on a vu à cette époque-là, on le reverra.
Ah bon?
Ah oui, moi je suis persuadé de ça.
Attends, je peux te couper?
Ben je t'en prie.
Écoute, franchement, moi, sa saison au Milan AC, je regarde beaucoup de foot italien.
Mais regarde les 6 mois qu'il a fait.
Très bon depuis que Gattuso a repris l'équipe. Je pense que la paire qu'il a formée avec Romagnoli, c'était probablement une des meilleures paires de centraux en Serie A. Alors il est arrivé, il a eu son transfert, ça s'est pas super bien passé. Montella, bah, elle avait du mal à mettre en place son équipe, donc il a, voilà, c'était toute l'équipe qui était binon. Hein, quand sous Montella, ça je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Il avait des gros problèmes perso, je crois qu'il a un enfant qui est gravement malade, ça lui a pourri le cerveau pendant le début de sa saison. Donc nouveau club, problème perso, coach qui gère mal. Il a loupé son début de saison au Milan. Par contre, vraiment, je t'assure, depuis que Gattuso a repris l'équipe, il a vraiment retrouvé son niveau de la Juve. Hein. Il est à son niveau de la Juve.
Moi, j'ai vu ses 6 premiers mois. Effectivement, c'était un peu, on va dire, c'était moyen. On va pour pas dire.
Non, il était nul.
Mais attends, mais quand je vois Kimpembe. C'est quand même extraordinaire dans l'anticipation solide. Il est puissant, il va vite, il saute. Non mais je te vois grimacer, Jonathan. Mais
il y a un élément quand même.
Je pense que tu vas dire ce que je vais dire.
Ouais.
C'est la défense à 3.
La défense à 3. Voilà. C'est ce que nous dit d'ailleurs Renzo Flo sur le hashtag RMC Live et on le remercie.
Vous êtes persuadé, vous
Tourelle
pensez que...
veut mettre en place son 3-4-3. Oui. Il est donc logique de recruter un quatrième défenseur central de haut niveau parce que on a souvent dit au Paris Saint-Germain, il manque un défenseur
blessure,
central.
Suspension,
ça pose problème.
Non mais recrutons-le. Mais moi je suis persuadé que Kimpembe.
Ça veut pas dire que Kimpembe jouera pas, c'est ce qu'on va dire.
Ah mais moi j'espère qu'il jouera parce que
ça soit une
défense
à 3.
Effectivement, on va dire Bonucci a l'habitude d'une défense à 3 parce que il a évolué comme ça à la Juventus. Mais pour moi Kimpembe a largement sa place dans n'importe quel grand club.
Il y a pas de souci hein, mais je pense que la saison est longue, tu vas jouer le championnat, tu vas jouer la Ligue des Champions. Franchement, moi, je trouve que vous faites un peu les peines, c'est un peu peine à jouer quand même de pas se réjouir que Bonucci arrive quoi. C'est quand même un monstre.
Attends, c'est un excellent joueur, je l'ai bien dit.
Donc c'est pas peine à jouer.
C'est un joueur de très grande classe.
D'accord.
Maintenant, je pense que Kimpembe est un jeune joueur de très grande classe.
Pourquoi opposer les deux? Moi, je pense que Kimpembe, c'est effectivement, c'est le plus, allez, je, j'ai un peu du mal à dire que c'est le plus beau potentiel qu'on a en défense centrale, parce qu'on a quand même des sacrés joueurs en défense centrale qui s'amènent en France, Langlais, Laporte, et Lucas Hernandez et compagnie. Mais c'est vrai que je pense que c'est quand même le plus talentueux, qu'il est voué à devenir un taulier du Paris Saint-Germain, ça y a pas de souci là-dessus. Moi ce que je vois c'est qu'il est jeune et il faut pas brûler les étapes. L'année dernière, il a eu beaucoup de fois sa chance et il est quand même passé à travers beaucoup de fois la saison dernière. Il a pas forcément été toujours à son niveau et ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur, ça veut simplement dire que c'est un jeune qui est toujours en phase d'apprentissage du très haut niveau. Quand je parle de très haut niveau, c'est de la Ligue des Champions, mais on sait qu'il a en lui d'avoir ça. On l'a vu, on se rappelle du match aller contre le Barça où il a été stratosphérique. Il y a pas d'autre mot, il a été phénoménal. Ouais. Mais moi je vois pas le problème. On sait qu'il veut jouer à 3. Son projet c'est de jouer à 3. Tu joues derrière, t'as des blessures, t'as des suspensions, t'as Ligue des Champions, championnat, les coupes, il y aura de la place pour tout le monde.
Alors c'est parce que y aura de la place pour tout le monde. Qu'on va prendre au 32-16 sur RMC. Salut Gabriel.
Oui, bonsoir.
Merci d'être dans l'after. Donc toi Bonucci, t'es supporter du PSG d'abord, hein.
Oui, moi je suis supporter parisien depuis presque.
Il nous appelle souvent même.
Et il nous appelle souvent. Oui. Bah alors, merci beaucoup. Bonucci non gracié pour toi. Oh là, j'ai un accent horrible.
Ouais,
Bonucci
non
merci, je préfère le dire en français.
C'est une fausse bonne idée. Je pense que c'est une fausse bonne idée, déjà, parce que je suis pas persuadé. Moi, j'ai jamais considéré Bonucci comme un très grand défenseur. Il a surtout été très bon. Il a surtout été très bon parce qu'il était à côté de Chiellini. Et vous avez des défenseurs qui bonifient les gens qui sont à côté d'eux, et d'autres qui malheureusement, quand ils sont plus à côté de ces gens-là, sont moins bons. Moi, je pense que Bonucci, il est comme ça. Je pense que c'est une fausse bonne idée déjà à cause de son âge, et je pense que le PSG
il a 31
est capable.
Ans, hein.
Non, c'est pas vieux, mais bon, au-delà de ça, je dirais qu'à Paris, en plus, ça fait 3-4 saisons qu'on voit systématiquement les jeunes défenseurs centraux du club qui sont pétris de talent, qui se barrent tous un par un. On a Zagadou qui est parti à Dortmund. Alors, il joue pas tout le temps, mais il est quand même parti à Dortmund. C'était un bon potentiel. Je pense que le club regorge de ces potentiels-là, et je pense qu'il serait peut-être plus intelligent d'essayer de faire monter ces jeunes-là ou d'aller chercher un joueur qui pourrait être un plus ou en devenir, comme l'a fait l'OM avec ça. Et voilà. Mais Bonucci, pour moi, c'est
une
bonne idée.
Gabriel, je vais te poser une question. Le projet du PSG, c'est de gagner la Ligue des Champions cette année. On est d'accord.
C'est le projet depuis 5 ans.
Non mais là avec ta Neymar, c'est bon, ta Neymar, t'es Mbappé, ton projet c'est de gagner la Ligue des Champions cette année. Et ben je pense que vraiment si tu veux la gagner cette année, il faut un joueur qui a cette expérience, qui a cette expérience du haut niveau. Alors c'est vrai que dans la construction logique d'un club, je te rejoins totalement Gabriel.
Il y a pas que Bonucci, je pense sur le marché, je pense que le PSG a quand même les armes et l'image pour aller chercher quelque chose de
mais Gabriel, si tu sais que tu veux jouer à 3. OK? C'est le projet de Tourelle de vouloir jouer à 3. Prendre Bonucci, un joueur qui connaît ce système sur le bout des doigts. Logique.
Non, mais Jonathan, c'est comme le dit Gabriel, il le connaît quand il était avec Chiellini et Barzagli. C'est pas la même chose. Moi je suis persuadé, je suis d'accord avec Gabriel. Je crois que un gars comme Bonucci, il est bon quand il est avec ces deux-là. En dehors de ça, c'est un défenseur, on va dire, c'est
un petit peu le défenseur. Hein, maintenant on est en Ligue 1, Bonucci en Ligue 1, c'est quand même
François, ces 6 derniers mois avec Romagnoli, il est monstrueux, vraiment.
Non, mais, tu sais, Jonathan,
il est très fort. Chen, parce qu'il est pas d'accord avec toi, Sam, donc sur Kimpembe. Et Gabriel, tu peux rester, hein, mais Chen n'est pas d'accord avec toi. Chen.
Non, mais
bonsoir.
Après, je sais pas.
Chen, tu nous entends? Chen, voilà.
Non, mais ce que je veux dire aussi, Jonathan, est-ce que t'as regardé la Coupe du Monde? Parce que tu parles souvent des joueurs d'expérience un peu. Mais la Coupe du Monde, elle nous a montré que les vieux. Pardon?
Oui, c'est Chen qui te parle. Tu n'es pas obligé de t'arrêter. On va s'arrêter pour l'entendre.
Je disais que les vieux briscards, les joueurs d'expérience, voilà, leur époque commence à finir. C'est plus à peine parce que la jeune génération, ils en ont rien à caguer.
31 ans, vieux Bonucci,
31 ans. Il joue en défense. Non,
mais c'est pas vieux. T'as fini à quel âge, toi, ta carrière, ta grande carrière?
34 ans.
Tu vois?
Et puis tu joues attaquant.
Je joue attaquant. Ouais.
Donc c'est pas je pense que t'es dans la force de l'âge quand
t'es cramé à 31 ans.
Je pense que quand t'es défenseur, t'es dans la force de l'âge justement quand t'es à 30 ans, quand t'es attaquant, c'est plus vers la, tu vois, vers la sortie.
32-16. Alors Chen, bonsoir. Merci d'être dans l'after. Qu'est-ce que tu voulais nous dire justement sur ce débat qui Kimpembe
Bonucci? En général, je suis rarement d'accord avec Jonathan. Mais honnêtement, faut arrêter les mecs.
quand on achète pas un mec connu, on dit que Paris fait des paris justement. Là, pour une fois qu'on prend, et là maintenant quand on prend un joueur connu, etc. On dit oui, Paris recrute que des gros noms, etc. Mais Bonucci, il a joué en défense à 3 pendant un long moment à la Juve. Alors, ok, c'était pas avec.
Et en équipe d'Italie.
Et en équipe d'Italie aussi. Franchement, je sais pas si vous avez lu un petit peu. Moi, je me suis un peu renseigné. Tourelle, il hésitait entre lui et Boateng. Et justement, il a bien ciblé les joueurs parce que justement, il veut des joueurs qui ont l'habitude de jouer en défense à 3. Donc, c'est tout sauf, c'est vraiment un truc réfléchi, quoi. Je sais pas, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et honnêtement, quand Samuel, il parlait de Kimpembe, arrêtez, franchement, Kimpembe, je suis supporter parisien, je suis abonné parisien. Mais faut arrêter, Kimpembe, il a beaucoup de potentiel. Mais je suis désolé, il n'a clairement pas prouvé quoi que ce soit au niveau de l'équipe.
Pas encore, oui. Je ne serais pas si catégorique que toi parce qu'il a quand même montré qu'il avait en lui d'avoir ce niveau-là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la régularité et l'expérience.
Je suis d'accord, mais je vais être honnête. Ce que les gens ils retiennent le plus, c'est son intervention sur Messi quand on mène 3-0 au parc et qu'il n'y a plus grand-chose à craindre. Moi, je me rappelle très bien du moment où Kimpembe, il a joué avec Paris la saison passée contre le Real. Il a fait des boulettes. Il a fait des erreurs contre Strasbourg. Il s'est prendre dans le dos par l'attaquant de Strasbourg. Il est pas parfait. Et justement, moi, je pense que Tourelle, s'il veut prendre un joueur qui est confirmé, c'est parce qu'il n'aura pas le droit à l'erreur non plus. Et du coup, il se penche vers des joueurs qui ont plus d'expérience. Et c'est tout à fait normal. Moi, okay. J'aime beaucoup Kimpembe, mais une défense à 3, il faut 4 défenseurs centraux
de haut niveau. Exactement. Voilà.
Hein non, mais moi, ouais,
merci, Chen.
Salut, Chen.
Je respecte son avis, mais moi, je suis persuadé que Kimpembe est un joueur de très, très haut niveau. Maintenant, moi, il m'a prouvé.
Je peux te poser la question autrement?
Ah oui.
Comparons les 6 derniers mois de Bonucci et les 6 derniers mois de Kimpembe.
Non mais c'est ça le
problème. 6 derniers mois de Bonucci, c'est du très haut niveau. Kimpembe, c'est encore la jeunesse.
Pourquoi c'est la jeunesse? On laisse pas beaucoup la chance à ce produit-là.
Il a beaucoup joué quand même l'année dernière.
Ouais, mais bon,
il y en a un qui est champion du monde.
Voilà, et ça change. Moi, je suis.
Bah, l'autre aussi.
On remercie Gabriel. On remercie Chen qui s'est passé par.
Bonucci aussi, le champion du monde.
Bonucci est champion du monde, je crois pas.
Ah non, c'est Barzali, c'est Barzali, c'est Barzali.
Bonucci meilleur que Kimpembe, nous dit Mustapha Fan sur le hashtag AMC. Live, même s'il est champion du monde, le match contre le Danemark, il n'était pas si fort que ça. Bon, Bonucci est un super joueur, nous dit Alexandre. Comment les supporters du PSG ne peuvent pas être contents de sa venue? Et puis, moi, je voulais juste dire un mot sur ce 3-4-3, parce qu'il y a des gens qui se disent, tiens, c'est peut-être défensif, ça.
Ah non,
on a vu la Belgique, par exemple.
Ah non, c'est offensif quand tu joues.
Je rigole. Non, mais moi, je trouve ça. Non, mais parce que c'est vrai que c'est le système de la Juve, voilà, le système mis en place par la Juve. Mais c'est un système vachement intéressant.
Il va juste falloir trouver le milieu.
Qui était un vieux système et qui est remis un peu au goût du jour, je trouve.
Il va juste falloir, je suis curieux juste de voir quel milieu accompagnera Marco Verratti. Bah, ça sera Meunier et Kurzawa.
Ouais.
Piston côté droit, côté gauche. Il y aura Verratti, c'est une évidence. On sait que Rabiot va partir. Je serais vraiment curieux de voir qui va jouer
avec. On a le temps. Il y a du temps, Kanté, peut-être.
Mais va falloir en acheter un. Et va falloir ne pas se planter là-dessus parce que je pense que c'est un peu le poste plus important dans ce système-là.
Merci Samuel et merci Jonathan. On vous retrouve évidemment dans un instant. On revient dans l'after avec un autre Italien qui est au centre de l'actualité, Mario Balotelli. On vous donne d'ailleurs les dernières news sur la possible venue de Balotelli, l'enfant terrible du football à l'OM. Est-ce que c'est le grand attaquant de l'OM à besoin? On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live sur Twitter. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot, François Pinet.
Allez, de retour dans l'after. De retour dans l'after, 21h47 sur RMC, vous êtes sur BFM Sport, on est bien ensemble avec toujours Samuel Ipois. Merci d'être là tout l'été, tu seras sur RMC dans l'after. Je ne suis pas le seul arbitre ici. Il y a aussi Jean-Christophe Drouet qui met des cartons rouges. Le pépiteur. Ami Gilbert, il est parti en vacances. Mais il nous écoute. Attention, Jonathan Macardi, vous le connaissez évidemment. À 22h, on parlera de Neymar. Il reste au PSG et c'est lui qui le dit. Donc là, c'est vrai.
Comme s'il avait le choix.
On en reparlera dans un instant. Mais là, on va parler de l'Olympique de Marseille. Andoni Zubizarreta, directeur sportif du club, était en conférence de presse aujourd'hui. C'était intéressant de l'entendre parce qu'il a fait le point sur tout le mercato marseillais.
Non, le mercato du vice-champion d'Europe.
Marseillais. Ça reste marseillais, le mercato.
Du vice-champion d'Europe.
D'accord. Mais ça, ça, ça reste pas au palmarès, ça, du champion d'Europe. C'est pas une coupe. Non. Bref, ça s'écrit Douillet Chaleta Tsar. Voilà.
Pas mal.
Bravo. Hein, ça, enfin, ça, ça se dit comme ça parce que ça s'écrit Duche Chaleta Car.
Quelque chose me dit, tu l'as travaillé toute l'après-midi.
Croate, voilà, il n'a pas joué la finale, mais il a joué le match contre l'Islande avec la Croatie en Coupe du Monde. C'est un défenseur de 21 ans, défenseur central, 1m92, 89 kilos, recruté pour une vingtaine de millions d'euros, bonus compris. Il portera le numéro 15 à l'Olympique de Marseille. Et c'est donc la première recrue de cette saison pour l'OM. Il vient de Salzbourg, que l'OM a croisé en Ligue Europa.
On se rappelle, on l'a vu jouer. On a pas même joué. Hein.
Bah, et t'as trouvé ça bien? Parce que moi,
j'avais pas sauté aux yeux. Il m'a donné une belle impression. Une impression de puissance d'être un défenseur. Alors, il a, sur les matchs qu'on a vu de lui contre l'OM, c'est vrai qu'il était un petit peu bourrin. Mais ce qui est impressionnant, ce qui sautait aux yeux, c'est qu'avec malgré son gabarit, il est pas maladroit avec les pieds.
Et ben justement, puisque tu parles de pieds, Zubizarreta a également parlé de ses pieds et
il y a une belle relance,
c'est
hein.
Un élément intéressant pour l'OM. Écoutez.
L'OM est un grand club. L'ambiance au stade, avec les supporters, a évidemment joué dans ma décision de signer ici. D'autres critères ont aussi influencé mon choix et j'espère vraiment pouvoir apporter le maximum à l'équipe.
Alors, évidemment, c'était le joueur que je vais redire, donc Chaleta Tsar, mais on va écouter Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, qui explique pourquoi ce recrutement pourrait être intéressant pour l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est le deuxième plus gros transfert de l'ère Marc Courte quand même, hein, derrière Dimitri Payet, et en fait il est gaucher. Voilà, donc on va peut-être pas entendre Zubizarreta, mais il est gaucher, ce qui peut être intéressant, et il a dit qu'il avait hâte de jouer avec le champion du monde Adil Rami.
Ouais.
C'est intéressant bien. Parce que Rolando reste a priori.
Oui, mais il est blessé. Il est blessé.
Il est aussi toujours à Marseille.
Rolando, il s'est fait opérer là. Il a eu une grave blessure, donc c'est pas tout de suite que tu pourras compter sur. Tu pourras pas compter
donc
sur
il
lui tout de suite.
Titulaire.
Je pense, il va falloir dégraisser parce qu'il y a toujours Ubochan et Doria qui sont dans l'effectif. Donc je pense qu'il va falloir leur trouver très vite une porte de sortie pour, je vais pas aller vendre pour grand chose, mais pour libérer un peu de la masse salariale. Faut pas oublier qu'il y a le petit Bouba Camara qui a fait le taf aussi. Quand on parle de potentiel en défense centrale, je pense que Camara c'est aussi un très beau potentiel sur l'échelle nationale. Et puis il y a Gustavo qui peut dépanner aussi. Et puis il y a toujours Sertic, donc il y a quand même du monde.
20 millions, mais c'est beaucoup, hein. Ça paraît beaucoup.
Là,
quand même.
Je pense que t'as enfin le complément idéal à Adil Rami.
Ouais, mais 20 millions pour un joueur de 21 ans, un espoir. Alors c'est peut-être dans l'air du temps, hein, et c'est forcément.
Et quelque part, en plus, un joueur qui vient de Salzbourg, quand même, qui vient du championnat autrichien, même si effectivement ils ont fait un bon parcours en Europe, je trouve que 20 millions, ça fait quand même, c'est cher payé.
Alors, c'est une pépinière, Salzbourg. Non, il y a quand même beaucoup de joueurs
juste,
qui sortent de Salzbourg. Regarde Naby Keita qui finit à Liverpool. Il y a quand même, ils ont quand même ce don. Ah bah, on sait que c'est le projet Red Bull, hein, que Gérard Rouillet derrière. Ils ont quand même le don pour aller repérer des jeunes talents en Europe, les faire grandir et les revendre. Et en général, t'es jamais déçu quand tu prends la.
Non, mais en tout cas, ils l'ont bien vendu. C'est vrai que bon, moi, je l'ai vu un peu lors des deux confrontations face à l'Olympique de Marseille. Ça a été un joueur qui a été intéressant. C'est vrai qu'il a bien tenu son rôle. Maintenant. Il connaît en tout cas l'ambiance au Vélodrome. Il sait comment ça va se passer. Maintenant, ça sera à lui maintenant de s'imposer.
Il l'a connu une fois parce que le match aller, c'était. Il y avait deux pèlerins.
Un vice-champion du monde chez un vice-champion d'Europe. Donc, on va écouter Andoni Zubizarreta. On l'a retrouvé, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, qui nous parle justement de la nouvelle recrue de l'OM.
Il est gaucher, il peut jouer sur le côté droit, ça veut dire qu'il peut jouer n'importe avec les centraux que nous on a dans l'équipe, et ça nous permet d'avoir un vrai gaucher dans la défense, et comme ça, bon, avoir une sortie naturelle de ballon de ses côtés. Ouais.
Voilà, il explique, hein. C'est très intéressant qu'il est gaucher. Ils n'avaient pas de gaucher. Rolando, il n'était pas gaucher. Abdenou, il est droitier.
Abdenou, il ne faut plus le compter dans l'effectif marseillais.
Il a fait des belles saisons avec Monaco, c'est jamais.
Ouais, non, mais bon.
Moi, ce que j'aime bien dans ce transfert-là, c'est que on a beaucoup eu de doutes sur le Champions Project, sur est-ce qu'il y a une enveloppe, est-ce qu'il y a de l'argent. Là, ce que je vois, c'est que t'es capable de sortir 20 briques sur un espoir.
Ouais.
T'es capable d'aller concurrencer des clubs comme Séville, qui le voulaient. T'es capable d'augmenter ton offre. Et donc, je pense que ça annonce les ambitions du club. On sait qu'il y a eu un passage avec le fair play financier. Il y a eu un passage avec des doutes sur le fair play financier. Je sais qu'ils ont bien bossé le dossier, qu'ils ont représenté quelque chose qui est totalement fiable. Et je pense qu'on va être surpris du mercato marseillais.
Parce que si t'es capable de mettre ton argent là, Est-ce qu'on sera surpris? Est-ce qu'on va voir arriver Mario Balotelli? En tout cas, il n'est pas encore à l'Olympique de Marseille. On vous donne des infos dans un instant. Mais justement, Andoni Zubizarreta, encore lui, le directeur sportif de l'OM, a parlé du cas Balotelli. On a bien l'impression que c'est un cas complexe.
Avec les dossiers de Balotelli, on essaie de trouver un accord. Nice, Balotelli et nous, on essaie de trouver des différentes possibilités, de faire les chemins, de trouver comment est-ce que c'était un dossier assez original, c'est pas un dossier normal dans le football. On a mis toutes les pièces que nous on pense qu'on peut mettre en jeu sur le dossier. Après, si ça marche, sinon il fera aussi penser qu'est-ce que sont les autres éléments qui peuvent nous permettre encore, je reviens à l'équipe de nous faire une équipe plus compétitive, parce que ça c'est aussi important.
Voilà, dossier compliqué. Juste pour préciser avant d'en parler, qu'on a des informations, ça pourrait être facilité peut-être par Rémi Cabella, qui était prêté la saison dernière par l'OM à Saint-Étienne. Donc il est revenu à l'OM, mais il intéresse fortement Nice. Il a même eu, d'après nos informations, Patrick Vira au téléphone, donc le nouveau coach niçois qui est très intéressé par le profil de Cabella. Donc Cabella veut aller à Nice et Nice veut l'accueillir. L'OM voudrait 10 millions d'euros pour vendre Cabella, à moins que l'OM et Nice arrivent à s'entendre justement pour débloquer le cas de Mario Balotelli, qui ferait de Mario Balotelli un nouvel joueur de l'OM. Balotelli, est-ce que c'est le grand attaquant dont on a beaucoup parlé et on s'est moqué de l'OM sur ce grand attaquant dont l'OM a besoin?
Les attaquants, c'est ton domaine, Sam.
Non, je veux dire par là, c'est le grand attaquant s'il retourne à l'entraînement, s'il s'entraîne, s'il met de l'abnégation, s'il met de l'envie de nouveau à l'entraînement. Parce que pour l'instant, c'est pas le grand attaquant que l'Olympique de Marseille a besoin. Parce que je veux dire, son comportement n'est pas très professionnel à mon avis. Je me demande encore qu'est-ce qui bloque, vu que les deux parties semblent plus ou moins d'accord. Si c'est Raiola, si c'est son manager.
Raiola.
Raiola qui bloque le fait qu'il soit sur le terrain en train de s'entraîner, il faut quand même qu'il lui dise: attends, moi je suis un joueur de football, j'ai besoin, le public m'attend, il y a un club qui m'attend, j'ai envie de m'entraîner pour pouvoir être opérationnel. Il faut faire les choses, il peut pas rester comme ça en transition, il sait pas ce qu'il fait, parce que ce soit à Nice, c'est pas appréciable pour Nice, et c'est pas non plus pas bon pour l'Olympique de Marseille et surtout pour lui, parce que il y a énormément de pertes de temps.
Avant que tu répondes, Jonathan, on va prendre Daou au 32-16 sur RMC dans l'After. Salut Daou.
Oui, salut les gars.
Supporter de l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup de nous écouter. T'es en vacances?
Bien sûr, oui, je suis en vacances.
Eh ben, c'est sympa de nous écouter.
Là, je pars en Tunisie là dans 2 jours, donc je me prépare.
Eh ben, super. Justement, sur l'Olympique de Marseille, on parle de Balotelli. Pour toi, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée?
C'est une très 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 mauvaise idée. Moi, j'aime pas ce mec. Hein. C'est le genre de mec qui est fou dans sa tête. C'est le genre de mec comme Ben Arfa, vous voyez, c'est un peu comme il a un mauvais caractère. Il n'est pas professionnel dans sa tête. Je sais pas. C'est le genre de mec qui il a fait caca à Nice, à mettre le parti. Et là, à Nice, c'est bon, les dernières, il a mis combien? Il a mis 17, 18, 18. Bon, après, bon, il a mis combien? 7, 8 penalties. Je sais pas, pour moi, c'est pas le bon attaquant qu'on attend.
Je crois qu'il a 48 buts en 67, 68 matchs, qui est plutôt très honorable.
Oui, je sais, mais bon, après, voilà, si on veut piocher des attaquants qui sont pas trop, trop chers, moi, je pense à son collègue Pléa, là. Il en a mis 15 ou 16 aussi avec Anis, là.
Attends, Daou. Je pense que Pléa, c'est plus cher. En termes d'indemnité de transfert, Pléa, c'est plus cher. Faut pas oublier une chose. Balotelli, il y a moins d'indemnité de transfert. Le salaire est certes astronomique, mais je pense que Puma, il y aura peut-être un petit arrangement, tu vois. C'est le sponsor de Balotelli, c'est le sponsor maillot. Et puis, je suis pas d'accord avec toi, parce que sur les deux dernières saisons de Balotelli avec Lucien Favre à Nice, il a été nickel dans son comportement. Alors, c'est vrai que parfois, il y a des matchs, il était un petit peu nonchalant, mais il n'y a pas eu de phrase. Il n'y a eu aucune phrase.
Comme si c'était Ben Arfa qui jouait à Nice il y a 2 ans. C'est la même chose, les mecs, ils tirent tous les coups francs, tous les pénalties, ils provoquent toutes les fautes, moi j'aime pas, j'ai jamais aimé ce mec. Moi j'attendais plus Traoré, par exemple, de Lyon, allez, c'est peut-être dans les mêmes trucs, bon allez, ça va coûter peut-être plus cher, Traoré, mais je sais pas, déjà il faut s'en débarrasser de Mitroglou, parce que ce mec-là, il faut pas qu'il joue au foot.
Ah bon? Moi je pense qu'il va mettre 15 buts cette saison, Mitroglou, au moins.
Hein?
Non, Daou, je crois que il faut pas le dénigrer, Mitroglou.
Je pense qu'il va mettre sa quinzaine de buts cette saison.
Tu sais, je vais te dire une chose, avec la préparation qu'il va avoir, voilà. Je pense qu'il va avoir une très très bonne préparation, ce qu'il n'a pas eu la saison dernière par rapport à sa blessure.
Il sera pas blessé, voilà.
Il sera pas blessé.
Les gars, dans ce style, il y en a que deux joueurs. Il y a Giroud qui utilise très très bien son corps. Pour moi, tout le monde a critiqué Giroud, mais moi j'adore ce mec. Donc j'adore. Ce mec, j'ai pas bon roi, mais voilà, il participe dans les jeux, il est combattant, il dévie le ballon. C'est vrai qu'il certes, il a pas marqué en Coupe du Monde. Mais un petit peu comme Giroud en fait, Mitroglou. Sauf que Giroud technique.
Alors, c'est vrai, Daou. On verra. Daou symbolise un peu les supporters marseillais. On se demande si Balotelli, ça peut être le feu au stade Vélodrome s'il marque des buts et s'il investit.
Daou,
ça peut être à l'inverse. Daou, effectivement, tout le monde.
Moi, je vais vous dire, je vais donner un argument. Daou, François, Sam. C'est que Balotelli.
Attends, Daou. Écoute,
je pense que Balotelli, c'est un joueur. On a vu. Il a besoin d'amour. Il a besoin d'affection de la part de son coach. On a vu avec Favre, il y avait une relation un peu paternaliste. On a vu les fois où ça s'est bien passé, notamment
avec Favre. Il y a des petits problèmes quand même.
Mais ça s'est bien passé. Il a toujours tenu. Il n'y a pas eu de problème. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de se sentir un petit peu aimé. On l'a vu quand il est retourné au Milan, ça se passait bien parce qu'il avait justement, il était bien entouré. Et je pense que là, l'OM actuellement. Non, je pense que Garcia, il a le profil pour gérer ce genre de joueur-là. J'ai fait beaucoup de reproches à Garcia, mais je pense que c'est le coach idoine pour Balotelli. Et la rencontre Balotelli puis Marseillais, ça sera une belle histoire d'amour. Ça sera déraisonnable à son image, et je pense que c'est ce qu'il lui faut.
Alors, c'est pas encore fait, évidemment, mais on aura l'occasion d'y revenir dans l'after. D'autres infos mercato à venir, et puis on parle de Neymar dès 22h. C'est jusqu'à 23h l'after, donc appelez-nous au 32-16. On vous attend nombreux. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot.